Merci, notre Père, que ta lumière brille dans les ténèbres. Et cette lumière, le Seigneur Jésus-Christ, est suffisamment puissante pour que nous soyons menés de la mort à la vie. Et que notre Église, que chacun d'entre nous puisse comprendre et puisse expérimenter cette puissance au sein de nos vies, que tu nous transformes. Et que tu nous encourages si tu nous as transformés. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci les amis pour votre attention. Je sais qu'il fait un peu plus chaud, mais si je regarde l'horloge là-bas, il n'est que 10h23, donc on a encore beaucoup de temps avant la fin de la prédication. Alors, ce que j'ai en tête, c'est quoi? C'est un crayon. Un crayon simple et fragile. N'est-ce pas? Mais savez-vous que le graphite dont l'intérieur du crayon se compose est lui-même composé de plusieurs couches de ce qu'on appelle le graphène? Évidemment, je ne suis pas scientifique, j'ai dû apprendre ces choses. Alors, le graphène est le constituant fondamental du graphite. Le graphite est formé de nombreuses couches de graphème empilés les unes sur les autres. Et ce n'est qu'en 2004 que des scientifiques ont pu isoler pour la première fois le graphène en utilisant du scotch, apparemment. Il s'agit de ce que nous appelons aujourd'hui un matériau miracle en raison de ses propriétés absolument exceptionnelles. Il est meilleur conducteur que le cuivre. Les électrons s'y déplacent presque sans résistance. Et c'est l'un des meilleurs conducteurs thermiques connus. Il est environ 200 fois plus résistant que l'acier à masse égale. On nous dit qu'une simple feuille de graphène de la taille d'un hamac pourrait supporter un chat mais peserait moins qu'un poids long de la moustache du chat. Alors, comme quoi pouvons-nous sous-estimer la puissance de quelque chose apparemment humble, comme un crayon, et relativement faible, qu'on peut le casser comme ça? Alors, cela nous mène à ce long récit de l'arrestation de Paul devant les autorités à Jérusalem. Sa première défense que nous venons de lire sur les marches de la forteresse romaine à Jérusalem. Le début, si vous voulez, de ce récit nous plonge dans la confusion, le chaos d'une foule en effervescence, selon le verset 30 du chapitre 21. Convaincu, toutes ces personnes, de leur fausse accusation lancée au sujet de Paul, à un point où ils saisissent l'apôtre et ils le traînent hors du temple avec l'intention de le tuer. Tout semble à ce moment-là fragile pour Paul, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Oui, dès lors, dans ce livre des Actes qu'on étudie depuis un certain moment, Paul, il ne sera plus jamais libre. Mais nous savons de part le Nouveau Testament, que la parole de Dieu n'est jamais enchaînée. Il est prisonnier, il ne fera plus de voyage missionnaire dans le livre des Actes, il n'implantera plus d'église dès ce moment-ci. Mais Luc écrit le récit que nous avons sous les yeux pour nous aider à comprendre que même à travers les difficultés que Paul rencontre, Dieu est puissamment à l'œuvre. Et la foi en Jésus-Christ est la bonne voie à poursuivre, encore aujourd'hui, malgré les apparences. Et donc, pour nous aider avec ça, comme vous voyez dans le plan, j'ai deux points pour décortiquer un peu ce texte. D'abord, comme Jésus, la souffrance et puis la gloire. D'abord, comme Jésus, la souffrance et puis la gloire. Si nous suivons Paul de près dans ces chapitres qui mènent l'apôtre jusqu'à Rome à la fin du livre des Actes, Jésus lui-même, il n'est jamais très loin de notre pensée. car Luc il fait exprès de souligner différents parallèles entre le Seigneur et son apôtre. Jésus lui-même avait dit, n'oublions pas, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le chemin que la voie qui est mentionnée au verset 4 du chapitre 22, en désignant la voie chrétienne, le chemin que la voie indique est un chemin qui mène à la croix. À la croix pour Jésus, bien entendu, et pour celui qui le suit. Jésus avait dit, il doit se charger de sa croix. Jésus, lui, était résolu de monter à Jérusalem dès le chapitre 9 du livre de premier livre de Luc, l'évangile de Luc. Et Paul, ici de même, dès le chapitre 19 du livre des Actes, le verset 23, il est déterminé, comme Jésus, à monter jusque Jérusalem. Et dans les deux cas, cela signifie souffrance, injustice, arrestation, procès. En arrivant donc à Jérusalem, Paul, comme Jésus, il est rejeté par les siens, faussement accusé par des Juifs venant d'Asie, selon le verset 28. Faussement accusé d'encourager le peuple juif à ne pas respecter la loi et d'agir contre le temple. Alors là, il y a déjà une petite ironie pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière. Car juste avant cet épisode, Paul, il a fait exprès pour montrer qu'en tant que juif orthodoxe, il continue, lui, dans sa piété à lui, à respecter la loi. Et le fait qu'il avait avec lui, verset 29, Trophime, l'Éphésien, dans la ville de Jérusalem, ne signifiait pas que ce dernier avait franchi le seuil du temple qui était réservé rien que pour des Juifs. C'était faux, ce qu'il disait à son sujet. La semaine prochaine, nous verrons plus tard, dans le chapitre suivant, que Paul, également comme Jésus, il est frappé lors d'un procès. Il est victime d'un complot, comme Jésus l'a été, de la part des Juifs. Ici, dans le texte que nous avons lu, comme lors des procès de Jésus, la foule est menaçante, n'est-ce pas ? À un point qu'il réclame la vie de Paul. À la fin du chapitre 21, verset 35, « Lorsque Paul fut sur les marches, les soldats durent le porter à cause de la violence de la foule, quand la multitude du peuple suivait en criant « À mort !» Et pourtant, Paul, comme Jésus, est déclaré innocent de la part des autorités romaines tout au long de ces chapitres en Actes. Donc de la souffrance, il y a pour Paul et pour tout disciple de Jésus-Christ, nous sommes tous appelés à suivre notre maître, encore aujourd'hui, à prendre en compte que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Déjà, Paul préparait les disciples à cela dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 22. Il fortifiait, parle de Paul et son équipe, il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. D'une certaine manière donc, suivre le Christ, tout comme un crayon, n'est pas très glorieux. C'est de devoir assumer l'opprobre qui accompagne suivre notre maître. Ce n'est pas puissant ni impressionnant de suivre un sauveur en croix. De devoir mourir et se charger à nous-mêmes et à nous charger de notre croix. Cela a l'air pour le monde autour de nous d'être quelque chose de faible, de nul, un peu morbide même, et surtout un peu rabat-joie. C'est tellement plus facile aujourd'hui de suivre la majorité, la majorité autour de nous sans être raisonnable. La majorité nous dit, profitez les amis de votre vie, vous n'avez qu'une seule vie. La majorité nous dit de chercher l'épanouissement ici-bas, de se laisser aller un peu, suivre ton cœur là où tu veux que ton cœur te mène. Où est le mal là-dedans? Quelqu'un m'avait dit qu'un ami de lui l'avait encouragé dans ce sens-là récemment. Alors cela nous fait penser à Satan dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, qui a dit la même chose à Ève. Dieu a-t-il réellement dit, sous-entendu, bah, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas écouter Dieu jusqu'à la lettre, sois un peu moins rigide, mon grand, respire un peu, amuse-toi un petit peu. Satan, vous voyez, tout au long de ces années, il n'est pas super innovant. Pourquoi? Parce que sa stratégie marche encore. Faire face aujourd'hui à ceux qui se moquent de notre prise de position démodée sur l'avortement, ou sur l'euthanasie, ou sur la sexualité, ou sur l'amour, de faire face à cette moquerie n'est pas agréable. Demande du courage. Être accusé de ne pas être tolérant ou aimable parce que nous suivons la voie de Jésus-Christ, bah, c'est pas agréable de faire face à cela. D'être accusé de faire le mal lorsqu'au contraire nous cherchons à faire le bien, bah, c'est pas évident de faire face à cela. Suivre Jésus, et oui, la souffrance liée à notre attachement à Jésus est garantie d'une manière ou d'une autre. Cela paraît donc faible, peu connecté même à la vie, parfois, d'être disciple de Jésus. Et d'autres autour ont l'air de bien réussir pourtant, sans avoir besoin ni de Dieu, ni de la foi chrétienne. Mais, les apparences sont parfois trompeuses. Car il y a, ici, même dans ce récit, une profondeur des racines que le gel hivernal n'arrive pas à atteindre, pour citer l'auteur du Seigneur des Anneaux. Car nous voici en train de lire encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, un texte à propos du courage de l'apôtre Paul, en train de prêcher encore le message que l'apôtre Paul, lui, proclamait, en train de voir la vérité de la nature précieuse de cet évangile que lui, il défendait, même au prix de sa propre vie, si cela était nécessaire. Et déjà dans ce texte, nous voyons la main de Dieu pour que cet apôtre soit épargné de façon à ce que sa destination finale soit Rome et pas Jérusalem. Il y a d'abord l'intervention au verset 31 du chapitre 21, juste à temps, d'ailleurs, du tribun romain. La surprise de ce même homme, ce commandant, au verset 38, d'apprendre que Paul était quelqu'un d'érudit qui parlait grec, et donc il ne s'agissait pas de ce révolutionnaire égyptien dont il croyait l'être. Cela avait pour conséquence qu'il permettait que Paul s'adresse à la foule dans leur propre langue, à savoir l'araméen. C'est ce que signifie ici le mot hébreu. C'est ainsi que Paul s'adresse à partir du chapitre 22 au peuple. Et lorsque la foule, à la fin de son discours, verset 22 du chapitre 22, il interrompt Paul parce que Paul parle de porter le message de Jésus-Christ aux païens, aux non-juifs. Ça, ils n'acceptaient pas. Et donc, de nouveau, il y a interruption de la part de la foule. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le militaire ordonne à ses troupes de faire entrer Paul dans la forteresse. Et de faire quoi? De le fouetter pour le faire parler, parce que nous supposons que lui n'avait pas compris l'araméen. Donc il n'avait pas compris ce que Paul disait pour se défendre devant les juifs, et il croyait ce qu'il disait était quelque chose qui remuait ces juifs. Mais lorsque on attache Paul au verset 25 de ce chapitre 22 avec des lanières. Paul, il demande quoi? Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain qui n'est pas condamné? Vous voyez là, il est poli, mais sa question, bien sûr, est pertinente. Car bien sûr, cela n'est pas permis de faire cela. Et non seulement donc, il est juif, il a dit ça au début de son discours, mais il est également romain. Verset 27, à cette nouvelle, le tribun vérifie pour lui-même, car quant à lui, il a dû payer pour ce privilège d'être un citoyen romain. Mais Paul, il découvre, a un statut en fait supérieur à lui, parce qu'il est, de par son père probablement, romain de naissance. Conséquence, verset 29, aussitôt ceux qui devaient le faire parler s'éloignèrent et le tribun prit peur, comprenant que c'était bien un citoyen romain qu'il avait fait lier. Donc cette partie de l'histoire termine avec Paul plutôt protégé de la foule, pas les Romains. Paul est le seul, tout au long de ce récit, qui n'a pas peur, qui ne panique pas, qui ne court pas à gauche et à droite. Car dans la providence de Dieu, il sait ce qu'il fait et il comprend qui il est. Ultimement, oui, il est juif, oui, il est romain, mais au-dessous de ces deux identités-là, il est chrétien. Et ses racines, donc, sont profondes. Pourquoi? Ben, on va y arriver. Mais à ce stade, nous disons que oui, le chemin, la voie, V majuscule, que nous devons suivre, doit comprendre que ce n'est pas la voie de la facilité. Jésus, après avoir résolu Luc 9, 43, de se diriger, lui, vers Jérusalem, il échangeait tout de suite après avec quelqu'un lorsqu'il était dit, le texte, sur la voie vers Jérusalem, même mot qu'employé pour la voie ici. Et cette personne lui disait, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Comment Jésus lui avait-il répondu? Luc chapitre 9, verset 58 et suivant. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Donc une succession, n'est-ce pas, d'excuses présentées à Jésus pour empêcher ces personnes de suivre Jésus. D'une certaine manière, de façon polie, je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire, j'ai des examens à réussir, j'ai ma famille qui me demande de faire ceci ou cela, j'ai un travail qui juste est trop prenant, vous comprenez? Et donc oui, suivre la voie, écoute, il faut comprendre cela pour être disciple de Jésus. Mais, c'est le chemin qui mène cette voie-là à la gloire. Après la mort, sur la croix, Jésus est ressuscité. Il est monté auprès de son Père, à sa droite, où il siège dans sa gloire. Et il dirige encore aujourd'hui son Église. Paul arrivait, lui, à Rome, malgré tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Et son message qu'il proclamait à Jérusalem est encore proclamé aujourd'hui. Oui, il y a la souffrance, mais cela mène à la gloire. Et donc, pour conclure ce premier point, les amis, on a encore le temps, donc c'est bien. C'est facile d'être intimidé par le nombre de personnes autour de nous, dans notre cercle d'amis, éventuellement dans notre famille, nos collègues au travail, que sais-je. Peut-être même par un petit ami qui ne croit pas, et ça m'amène à vouloir m'allier avec ses croyances plutôt à elle ou à lui. Cela a l'air sécurisant lorsque nous suivons ce que les autres disent, ce que les autres pensent. Ça a l'air convaincant de prendre refuge dans leurs propos plutôt aisés. Mais il faut toujours se rappeler que la majorité dans cette affaire, au chapitre 21, au chapitre 22, les Juifs, les Romains, ils ont tort. Suivre la majorité révèle être faible, ultimement, sans scrupules, motivé par le statut social. La voix de Jésus-Christ les échappe parce qu'ils sont motivés par de telles choses. Et ainsi la gloire également les échappe. Car c'est la voie qui mène au royaume de Dieu, un royaume dans lequel il n'y a qu'un roi, le Seigneur Jésus-Christ. Et cela donc nous mène au témoignage de Paul, là maintenant, devant les Juifs, qui démarre au chapitre 22. Ils sont rassemblés donc à Jérusalem, devant la forteresse. Paul se tient sur les marches, devant eux, accusé du sacrilège en ce qui concerne la loi et le temple, parce que cet homme ne se dit pas simplement juif, mais plutôt juif qui est devenu chrétien, croyant en Jésus-Christ. Quelqu'un donc qui suit la voie, V majuscule toujours, synonyme dans le livre des actes pour la foi en Jésus-Christ. Paul ne cherche pas à cacher cela, il n'a pas honte de cela, mais il cherche à convaincre ceux qui l'écoutent qu'il n'a pas abandonné son héritage juif, mais il a plutôt découvert son accomplissement, l'aboutissement de cette espérance des Écritures, de ses pères. Paul, il sait que tous n'accepteront pas ce qu'il est sur le point de déclarer, mais il tient à leur dire de telles choses afin de convaincre certains et persuader en même temps les Romains qui étaient là à accorder une place légitime pour la foi chrétienne au sein de l'Empire, comme ils ont accordé aux Juifs, parce que c'est dans la continuité de cette foi des Juifs. Luc a déjà raconté l'histoire donc de la conversion de Paul elle-même au chapitre 9. On n'a pas prêché dans cette série le chapitre 9. Ici, c'est Paul lui-même donc qui raconte ce qui lui est arrivé devant les Juifs. Et il fera encore un troisième récit de sa conversion au chapitre 26, cette fois-là, devant les Romains. Donc, trois fois, le livre raconte l'histoire de la conversion de Paul. Et cela indique, bien sûr, son importance. Grâce à cela, nous sommes ici ce matin, parce que l'Évangile, par la suite, a été proclamé à nous, les non-juifs, des nations. Ça permet à ce que nous soyons encore aujourd'hui, lorsque nous écoutons donc le récit de sa conversion, d'être persuadés de la véracité de la voie sur laquelle nous nous trouvons, si nous sommes aussi en Jésus-Christ. Donc passons à ce deuxième point. Comme Paul, la lumière, ensuite la vue. Comme Paul, la lumière, ensuite la vue. Paul, il commence, on est au chapitre 22, hein, en racontant son passé. Il était juif, né à Tarse, de Cilicie, élevé et éduqué au pied de Gamaliel, un pharisien renommé de l'époque, membre du Sanhédrin, un repère respecté par ses juifs à Jérusalem. Si vous voulez, c'est l'équivalent d'un James Healy Hutchinson pour notre monde évangélique ici à Bruxelles. Les références religieuses de Paul parlent d'elles-mêmes, de Saul plutôt bien sûr, élevé dans la stricte conformité, il dit, à la loi de nos pères. Verset 3, « J'avais une passion jalouse pour Dieu. » Et la preuve de cette passion qu'il donne, c'était laquelle ? « J'ai persécuté à mort cette voie, la foi chrétienne. Liant hommes et femmes pour les mettre en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouveraient et de les amener à Jérusalem pour qu'ils soient châtiés. Plus tard, il le dit ainsi, plus tard dans ce chapitre, verset 19, quand il parle au Seigneur, il dit, « Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on a répandu le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent. Je les approuvais, je gardais même les vêtements de ceux qui l'ont supprimé. » Donc le voici Paul, zélé pour le Dieu qu'il adorait, intelligent, doué, bien respecté. Et pourtant, il avait terriblement tort. À un point que nous pouvons dire que cet homme si respecté parmi ses pairs était ultimement méchant, pécheur, aveugle. Pourquoi on peut déduire cela? Car ensuite, verset 6, tout change pour lui. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout d'un coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Moi, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Alors, où se trouve l'erreur fondamentale de Saul avant sa conversion? Où se trouve donc le fondement qui fait de lui ensuite cet homme courageux, patient, persévérant, poli, malgré la souffrance que cela allait engendrer son appartenance à Jésus-Christ? C'est où ce fondement? Dans l'identité de Jésus-Christ. Car lorsqu'il entend la voix de Dieu, il sait que cela vient de Dieu. Car il l'appelle, verset 8 et verset 10, « Seigneur ». Il ne s'agit pas d'envoyer vu d'un autre Dieu tout d'un coup qu'il appelle. Non, il s'agit toujours du même Dieu, le seul Dieu unique, vivant et vrai, le Dieu de ses pères. Et quelle est sa réponse? « Je suis Jésus de Nazareth ». Jusque-là, Jésus pour Paul a été un imposteur aux yeux de Saul, un blasphémateur. Toute tentative de proclamer donc Jésus comme Seigneur devait absolument être supprimée. Mais il avait tort. Il avait tort en ce qui concerne l'identité de Jésus-Christ. Car dans son zèle, il était enfermé dans un système qui ne lui permettait pas de contempler Jésus-Christ comme étant le roi promis, le fils incarné, le roi serviteur et souffrant, mais ensuite la gloire, le roi glorieux, élevé par Dieu à la toute haute place. Mais dès maintenant, il le comprend. « Je suis, dit Jésus, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ah, il n'a pas besoin, Paul, à ce moment-là, de demander pourquoi Jésus disait que Paul le persécutait. Parce que Paul ne le persécutait pas, il persécutait l'Église, pas Jésus lui-même. Mais il n'a pas besoin de demander ça, parce qu'il comprenait que oui, si Jésus est Seigneur, persécuter le peuple de ce Jésus revient à persécuter Jésus lui-même, car Jésus est la tête de son corps, ce qui est l'Église. Jésus s'identifie avec son Église à un point que ce livre d'actes et le récit nous dit, le tout début du livre des actes, de ce que Jésus lui-même continuait à faire à travers ses apôtres par la puissance de l'Esprit dans le monde. C'est Jésus qui agit. Et lorsqu'Ananias, lui aussi appelé par Dieu pour aller à la rencontre de Saul, au chapitre 9, Lorsqu'Ananias le voit, il lui dit dans notre texte, verset 14, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. » Paul, vous voyez, il passe de quelqu'un qui dédaignait le Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un qui voit qui il est, le juste, J majuscule. Et par conséquent, il était prêt à écouter le Seigneur Jésus. Et ensuite, le suivre. L'éclat de la lumière rendait Paul aveugle pendant un moment. Et c'est lorsqu'il est avec Ananias, verset 13, que ce dernier lui dit de retrouver la vue. Au moment même, il ouvre les yeux. Qui est-ce qu'il voit? Il voit Ananias qui lui parlait. Et donc, il contemple quelqu'un que jusque-là, il cherchait à arrêter, à supprimer. Mais maintenant, il voit autrement. Ananias, il est appelé son frère. Et donc, il ouvre donc, ses yeux et avec un nouveau regard, surtout sur Jésus, sur lui-même, sur les Écritures, sur d'autres chrétiens. La lumière a pénétré son âme et ses yeux sont ouverts. Verset 16, « Lève-toi, fais-toi baptiser et lave de tes péchés en invoquant son nom. » C'est en invoquant le nom de Jésus, ce que ça signifie, le nom de Jésus, que ses péchés sont lavés. Dans le baptême, bien sûr, est le signe externe de ce qui arrive dans son cœur. Rappelons-nous, il s'agit d'un homme, quant à son obéissance de la loi, qui était absolument exemplaire, Saul. Mais cela cachait un orgueil, un cœur rebelle, un esprit qui ne dépendait pas de la bonté et de la grâce de Dieu, mais qui se croyait juste de par ses propres efforts religieux. Ce qui lui est arrivé est donc d'un côté tout à fait exceptionnel. Nous sommes bien d'accord, il a vu, lui, une manifestation, une vraie apparence de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est plus qu'une vision de Jésus, c'est une apparence réelle du Seigneur Jésus à l'apôtre Paul. Car c'est ainsi qu'il est qualifié par la suite, Paul, en tant qu'apôtre. Quelqu'un qui a vu le Seigneur Jésus ressuscité. Témoin, lui, comme les autres, de la résurrection. L'appel donc de Paul est aussi lié à ce que le Seigneur lui demande de faire. Car comme le confirme le Seigneur dans sa deuxième manifestation à Paul au temple, lorsqu'il était de retour à Jérusalem à partir du verset 17 de notre texte. Cela a lieu en fait 3 ans plus tard, nous comprenons lorsque nous lisons le livre de Galates. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il est choisi par Dieu d'être l'apôtre envers les non-juifs, les païens. C'est un tournant, ce choix, qui permet que la bonne nouvelle nous atteigne, nous les non-juifs. Confirmé par ce miracle de l'apparence du Seigneur Jésus à Saul. C'est exceptionnel cela. Et c'est nécessaire pour que la parole va vers nous, les païens. Mais en même temps, et on arrive à notre application aussi pour nous de ce deuxième et ce dernier point. Donc bravo à vous si vous êtes encore avec moi. En même temps, ce qui arrive à Paul devient un paradigme pour ce qui arrive à chaque homme ou femme qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 26, lors du troisième récit de cette conversion, le Seigneur Jésus lui dit qu'il l'envoie vers les païens, alors je cite verset 17, verset 18 du chapitre 26, « pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi. » En moi. Verset 20 de ce même texte. J'ai annoncé, dit Paul, la repentance et la conversion à Dieu. Alors la repentance nous est nécessaire encore aujourd'hui, tout comme c'était nécessaire pour Paul, de reconnaître notre erreur réelle, coupable, de ne pas avoir estimé le Seigneur Jésus-Christ comme étant réellement le Seigneur, étant quelqu'un de suffisamment important pour que je me tourne moi-même vers lui. D'être un homme ou une femme, malgré notre talent, malgré nos accomplissements, malgré peut-être nos préoccupations, nos difficultés du moment, d'être néanmoins un homme ou une femme qui a profondément besoin du pardon pour mes péchés. Car voyez-vous, au lieu d'être quelqu'un d'illuminé et de libre, ce que nous croyons être souvent en étant libre de toute foi, en poursuivant ma propre voie, je suis, nous dit notre texte, plutôt aveugle et esclave au péché, à Satan lui-même. Alors comment reconnaître cela? Comment reconnaître que j'ai besoin de ce pardon? La lumière de Jésus-Christ doit aussi pénétrer notre âme. Et cela a lieu lorsque nous contemplons Jésus-Christ tel qu'il est. Le seul moyen de faire cela aujourd'hui, c'est de dépendre des témoins oculaires de Jésus ressuscité. Ananias dit à Saul, verset 15, « Tu seras pour lui témoin devant tous de ce que tu as vu et entendu. » Ce n'est pas nous qui le voyons aujourd'hui, Jésus. Nous ne devons pas nous attendre à le voir dans une vision. Non, c'est eux qui l'ont vu réellement et nous dépendons de leur témoignage. Trois fois, Luc, dans le même livre, raconte cette conversion, ce témoignage, encore pour nous ce matin, parce que nous venons de le lire. Donc revenons, si vous voulez, pour un instant, là où nous avons commencé, avec le graphène qu'on ne voit pas ici sur ce crayon. Pour extraire du graphène, de façon à ce qu'il soit produit à grande échelle et donc utile pour différentes applications pratiques, vous savez, c'est extrêmement compliqué. Apparemment, il y a une méthode chimique de oxydation et réduction du graphite pour créer des films de graphène. Ça me dépasse, bien sûr. Compliqué. Mais pour pouvoir recevoir la lumière qui change tout pour toi, qui te mène de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'aveuglement à la vue, il vous faut tout simplement se tourner à Jésus-Christ. Avoir une compréhension juste de celui qui est le juste, Jésus. Et avoir cette compréhension-là nous ouvre nos yeux sur nous-mêmes, notre besoin de lui, notre besoin de recevoir le pardon de nos péchés en invoquant son nom. Parce qu'il s'est donné pour nous à la croix. Et par la suite, en nous confiant en lui, en sa bonté envers nous. Une nouvelle si bonne, ce message-là, que Paul ne pouvait jamais limiter ce message rien qu'à son propre peuple, aux Juifs. Même s'il sait, lorsqu'il dit cela aux Juifs au verset 21, hein, que cela allait lui coûter cher. Verset 18 du chapitre 22, le Seigneur lui a dit de quitter Jérusalem la première fois qu'il y était après sa conversion, car le message ne sera pas accueilli. Paul y savait cela. Mais le voici de retour à Jérusalem en train d'expliquer ce qui lui est arrivé aux Juifs à Jérusalem. Et comment réagissent-ils au verset 22? Ils élevèrent la voix et dirent « À mort, à mort ». Plus tard, Paul réfléchirait plus sur ce thème de l'aveuglement et la vue. 2 Corinthiens chapitre 4, il y a deux versets qui font un écho de sa conversion. 2 Corinthiens 4, verset 15. D'un côté, il dirait que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, d'un côté, c'est comme ça, aveuglement. Mais de l'autre côté, il continue. Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, lors de la création, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Devenir un chrétien, c'est ça. Arriver à la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Alors, puis-je vous demander, en terminant, les amis, avez-vous personnellement, à toi, personnellement, cette connaissance? Cette connaissance de Jésus-Christ, de qui il est réellement. C'est une connaissance qui change absolument tout. Et certains d'entre nous viennent de consacrer du temps ce dernier temps à creuser l'un ou l'autre sujet afin de réussir des examens parce que vous avez estimé que cela en valait la peine. Mais voici une connaissance qui nous permet de passer des ténèbres à la lumière, de l'aveuglement à la vue, de la mort à la vie. Passer de côté de cette connaissance, car cela paraît moins attirant aujourd'hui que ce que le monde dans le présent peut nous offrir. Ben, ce serait une erreur totale. Car le Seigneur Jésus est Seigneur. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'être donc insensible à sa voix, comme nous allons chanter avec, dans un instant avec le dernier chant qui est sur le livret. Parce cela est terriblement aveugle à la réalité. C'est pourquoi si nous sommes croyants en Christ, nous sommes reconnaissants d'abord que cette lumière a brillé. Cela fait preuve de l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui a ouvert nos yeux pour contempler la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous voyons cela comme une grâce que le Seigneur nous a accordé, pas comme une mérite de notre part. Mais le message de Paul n'est pas d'être passif alors, comme si, comme quelqu'un me l'a dit récemment, que Jésus, il n'a pas brillé sa lumière en moi, et donc je ne peux rien faire. Non, non. C'est de faire ce que Paul lui-même prêchait que nous devons faire, de se tourner nous vers le Seigneur Jésus, le juste, afin de recevoir le pardon de nos péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en lui. C'est ce message-là que nous avons, en tant qu'Église, à proclamer. Ce n'est que ce message-là qui arrive à transformer les uns et les autres à la gloire de Dieu, car ce message-là est un message qui change tout. Est-ce que nous sommes encore persuadés que ça soit le cas? Ben, remercions le Seigneur pour sa lumière qui brille. Prions. Combien, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que tu nous as donné de connaître Jésus-Christ. Que sa lumière a brillé dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Donne-nous, si nous ne te connaissons toujours pas, et nous sommes ici présents ce matin, d'avoir ce courage dans le silence de notre cœur, de se tourner vers toi, de reconnaître que tu es Seigneur, et ensuite de te remercier que tu as pourvu pour nous un moyen pour que nous soyons pardonnés. Que ça transforme la vie de toute personne qui ne te connaît pas encore ici présent, mais que pour ceux qui t'appartiennent, Seigneur, que nous soyons encore émerveillés, que tu nous as graciés, que nous soyons encore reconnaissants pour ta lumière. Donc, sois à l'œuvre encore de par la proclamation de cet évangile au sein de notre Église, et cela pour ta gloire, nous t'en prions. Amen.